Aujourd'hui, nous recevons Bernard Brune. Bernard Brune est polytechnicien, diplômé de Sciences Po et de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Il a été au commissariat général du plan de 1975 à 1981, directeur de cabinet du commissaire, puis chef du service des affaires sociales. Entre 1981 et 1983, il a été conseiller du Premier ministre pour les affaires sociales, puis il a été président du directoire de la Caisse des dépôts de la Caisse des dépôts de développement de 1983 à 1986 et président de la Société centrale pour l'équipement du territoire de 1983 à 1985. Il est actuellement président-directeur général de Bernard Brune Consultant, qu'il a fondé en 1987, du groupe Bernard Brune depuis 1990 et de Bernard Brune International depuis 1995. Parmi les ouvrages qu'il a publiés, il a publié chez Duno, première édition 1969 et dernière édition 1992, un ouvrage qui s'intitule « Présentation de la comptabilité nationale française ». Il a publié à la documentation française en 1993 un ouvrage qui s'intitule « Choisir l'emploi », qui était le rapport du groupe emploi du 11e plan qu'il avait présidé. Il a publié chez Nil Édition en 1996 « Les habits neufs de l'emploi » et aux presses de Sciences Po en 1999 « Eurothérapie de l'emploi ». En collaboration, il a publié de nombreux ouvrages, notamment « Sécurité sociale, l'enjeu » paru en 1983, « Construire le travail de demain » paru chez CJD Édition d'Organisation en 1995, « La France au-delà du siècle » paru aux éditions de l'Aube en 1995, « Enjeux économiques et sociaux » paru chez Economica en 1995, « Les chances des Français » paru chez Alain Michel en 1997, « Au cœur de l'entreprise, 20 grands témoins disent leur vérité » paru au Village Mondial en 1999 et « Les 35 heures, une approche critique » paru chez Economica en 1999. Voilà, Bernard Brune, je vous laisse la parole pour 50 minutes. Merci.
Merci. Je suis très impressionné, non pas tellement d'être au fond de cette fosse aux lions, mais d'avoir mon nom auprès de tas de personnages extrêmement importants, de savants, de prix Nobel, etc. La liste est impressionnante, je me demande un peu ce que je fais là. Enfin, je vais essayer quand même de ne pas vous décevoir. Je voudrais vous parler donc de l'avenir du travail, emploi d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire au fond essayer de voir qu'est-ce qui est en train de tourner aujourd'hui en matière d'emploi, parce que ça tourne, qu'est-ce qui va se passer. Alors bien sûr, on ne sait pas prévoir. De temps en temps, ayant travaillé, comme vous l'avez dit, au commissariat général du plan il y a à peu près 25 ans, j'ai eu la curiosité, comme ça, par-ci, par-là, curiosité malsaine d'aller regarder les rapports que nous avons faits et qu'en partie j'ai fait à l'époque. J'ai tellement honte que j'ai tout remis au fin fond de la cave. Il ne faut pas espérer qu'on puisse véritablement prévoir, mais enfin, on peut essayer de trouver, c'est l'objet de la prospective, essayer de trouver quelles sont les lignes d'évolution et surtout, ce qui est le plus important, quelles sont les ruptures. Or, ce qui est intéressant, c'est que je crois que nous vivons une rupture. La providence des économistes et surtout des économistes du travail a fait les choses de telle façon que je crois que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, apprendront lorsqu'ils travailleront sur ces sujets-là que l'année 2000, ou disons le tournant du siècle ou du millénaire, a vraiment été une période de changement, et de changement important, dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui. Nous avons toute une série de phénomènes qui se trouvent, c'est le hasard bien sûr, je ne pense pas que ce soit le millénaire ou le jubilé qui soit à l'origine, c'est le hasard, mais il se trouve que nous avons une série de phénomènes qui, aujourd'hui, sont en train de transformer assez profondément, depuis peu d'années, qui sont en train de transformer profondément le travail et l'emploi. Les phénomènes, vous les connaissez, ce sont tous les phénomènes qui sont liés d'abord à excusez-moi d'employer ce mot, la nouvelle économie, c'est-à-dire, au fond, tout ce qui est lié au fait que les technologies de l'information et de la communication sont en train de prendre le devant de la scène. Et que précisément, c'est aujourd'hui, cette année, en France, que ça déboule, si vous me permettez l'expression, à toute vitesse. Les Américains connaissaient ça depuis un moment, les Finlandais aussi, mais nous, ça déboule maintenant. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui est plus récent, qui est plus conjoncturel, je dirais. Il se trouve que c'est depuis 3 ans, pratiquement, que nous assistons à une reprise économique, donc un nouveau développement des emplois et donc à une nouvelle manière d'aborder ces problèmes-là. Et puis il y a d'autres phénomènes comme celui-là et un que je voudrais souligner, c'est cette loi sur les 35 heures. Alors, je ne vais pas parler de la loi sur les 35 heures, d'abord parce que j'en ai marre d'en parler, et puis parce que c'est pas notre sujet. Mais ce qui est intéressant dans cette loi sur les 35 heures, et on le découvre tous les jours lorsqu'on regarde comment les entreprises ont réagi, c'est qu'elle a conduit pratiquement à, dans les faits, dans les esprits, dans les négociations, dans les discussions, un peu partout, à modifier l'approche que nos concitoyens ont du temps de travail et donc du travail. Dans la plupart des grandes entreprises, on s'est mis à parler de façon libre de mots qui jusque-là étaient des mots interdits, comme flexibilité. On a négocié toute une série d'accords dans lesquels on ne parlait plus seulement de salaire et de formation, etc., mais où on parlait aussi de flexibilité dans les temps de travail, de temps de travail individualisé, de temps partiel, de nouveaux modes originaux de pré-retraite, de redressement des pyramides des âges dans les entreprises de façon à embaucher plus de jeunes, etc. C'est-à-dire qu'il se trouve, c'est un fait, qu'aujourd'hui, par une loi qui a été perçue par beaucoup comme une loi rigide, en fait, au contraire, on a fait exploser la réflexion sur le travail. Alors c'est un fait que nous pourrons dire, je crois, dans les années qui viennent, que l'an 2000 a été une période de changement. Changement beaucoup plus important que ceux qu'on a pu voir dans les années précédentes, parce que la reprise économique n'est pas qu'une reprise conjoncturelle, elle est aussi la traduction d'une modification importante dans les modes de production liés aux nouvelles techniques de l'information et de la communication. Aujourd'hui, du fait de la reprise économique, on n'ose plus, on n'emploie plus des mots comme ceux qui ont été employés dans des bouquins qui ont été célèbres au cours des dernières années. Le livre de Jeremy Rifkin qui s'appelait « La fin du travail », et si je le résumais de façon un petit peu abusive, qui disait qu'au fond, Jeremy Rifkin reprenait des choses qui étaient dites dans les années 50, où on disait « puisque le tracteur a remplacé le cheval », l'agriculture n'a plus besoin de cheval et bientôt l'industrie n'aura plus besoin d'hommes. Et au fond, en caricaturant un peu, on pourrait dire qu'en lisant un peu vite le livre de Jeremy Rifkin qui s'appelle « La fin du travail », que finalement, il n'y aura plus comme travail du travail de service aux particuliers, du travail considéré jusqu'à présent comme des travaux accessoires, que le vrai travail, le travail industriel aura disparu. Donc, on a employé le mot, on a osé écrire un livre qui s'appelait « La fin du travail » et qui est un best-seller à travers la planète. Et puis, il y a 3-4 ans, Dominique Méda, qui est une sociologue et une excellente philosophe, a écrit un livre qui s'appelait « Le travail, une valeur en voie de disparition ». Ça aussi, alors elle s'est... Dans son livre suivant, elle a dit « Vous ne m'avez pas compris, en fait... Je n'ai pas voulu dire que le travail disparaissait. » N'empêche que le titre du livre, c'était « Le travail, une valeur en voie de disparition ». Maintenant, on ne dit plus ça. Maintenant, il y a encore des chômeurs, on le sait, on y reviendra. Mais on dit l'emploi, l'emploi, ça redémarre, l'emploi, ça existe, l'emploi va changer. Et donc, nous sommes vraiment dans une situation qui est différente psychologiquement de celle que nous avons connue. L'ampleur du chômage, notamment en France et dans une bonne partie de l'Europe, masquait en fait les effets positifs et les changements structurels profonds que l'accélération des mutations technologiques a apporté au cours des dernières années, et que la reprise économique permet, et puis l'accélération des mutations technologiques et le développement des nouvelles technologies numériques permettent aujourd'hui d'étaler au grand jour. Donc nous avons vécu une crise difficile, mais cette crise, comme toutes les crises, n'avait pas seulement son côté négatif, elle avait aussi son côté positif, masqué par l'ampleur du chômage et de tout ce qui accompagne le chômage. Plusieurs dimensions méritent un examen sur le travail. Le changement de contenu du travail, qui a conduit finalement à la mise définitive au rebut du taylorisme, c'est-à-dire de la parcellisation des tâches, pour le remplacer par un nouveau modèle qui, il faut le dire tout de suite, n'est pas beaucoup plus rose. Mais enfin, il est différent. Une nouvelle relation au temps, que, comme je le disais à l'instant, la nouvelle législation du travail et son application a révélé. une individualisation des conditions de travail qui remet en cause des pans entiers du droit du travail, car tout notre système était structuré, le droit du travail, qui est très important dans un pays comme le nôtre, a été structuré pour des grandes usines, pour des systèmes collectifs, et maintenant tout s'individualise. Donc il faut revoir les systèmes de régulation collective et le droit. Et dans les domaines dont je viens de parler, que ce soit l'individualisation des conditions de travail, le changement de contenu, la relation au temps de travail, c'est le mouvement elle-même dans tout le monde industrialisé. Et de ce fait, c'est la globalisation, d'une part, et l'approfondissement de l'Union européenne, d'autre part, introduisent une nouvelle division internationale du travail. Je voudrais prendre tous ces aspects, je vais les aborder, mais je vais les aborder par deux points successifs. D'abord, le changement de contenu du travail, et ensuite, la nouvelle relation au temps. Et vous verrez à la fin, en ayant repris tout cela, que finalement, c'est un nouveau contrat social qu'un pays comme le nôtre doit essayer de construire s'il veut faire face aux risques aujourd'hui considérables d'inégalités croissantes devant le travail et devant la rémunération. Sur le changement de contenu du travail, je voudrais aborder trois points. Le premier, c'est le passage dans le contenu que nous et surtout nos enfants verront dans leur travail, qui passe du face-à-face entre un homme et une machine au face-à-face entre deux hommes ou deux personnes. Et puis, ça sera mon premier point à propos du changement du contenu du travail. Et le deuxième point portera sur les conséquences de la fin du taylorisme. Et vous verrez que ces conséquences sont importantes. D'abord, du face-à-face homme-machine au face-à-face, ou au tête-à-tête, on va dire, pour ne pas dire face-à-face, entre deux personnes. Les nouvelles technologies ont évidemment pour effet de transférer à la machine une part des actes qui, jusqu'à présent, étaient réalisés par des hommes. Vous me direz, c'est pas nouveau. Depuis le métier à tisser, et peut-être même avant, on a cherché à inventer des technologies qui permettaient d'alléger la tâche de l'homme et donc de le faire par une machine. Mais il y a deux différences entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui a pu se passer au moment où on a mis en place le métier à tisser, puis au moment où on a mis en place la machine à vapeur, et puis au moment où s'est développée l'électricité. Trois événements successifs parmi d'autres de la révolution industrielle. Il y a deux changements profonds. Le changement le plus profond, me semble-t-il, c'est que les nouvelles machines ne s'attaquent plus seulement aux gestes automatiques, ne se contentent plus de remplacer des gestes physiques, mais s'attaquent à l'intelligence créative. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a confié à la machine une partie du travail de l'homme, celle qui était la partie physique, et maintenant on confie à la machine une partie du travail de l'homme qui est son intelligence. Et ceci change évidemment profondément la nature du travail, puisque finalement, beaucoup de choses dont on n'aurait pas imaginé il y a un demi-siècle qu'elles puissent être faites par des machines, sont faites par des machines. La deuxième différence avec la révolution industrielle antérieure, c'est que c'est la vitesse à laquelle se propagent ces nouvelles technologies. Alors, je ne vous ressortirai pas tous les chiffres, vous les connaissez, il y a un doublement de la puissance des ordinateurs tous les 18 mois, enfin, tous les spécialistes de l'informatique vous sortent des beaux chiffres comme celui-là, je ne les reprends pas. Mais c'est clair que l'augmentation extrêmement rapide de la puissance des machines de l'informatique et de la rapidité de fonctionnement des ordinateurs de l'informatique, cette évolution extrêmement rapide fait que nous n'avons pas le temps de nous adapter, nous, humanité, nous n'avons pas le temps de nous adapter à ces modifications technologiques, alors que la mise en place de l'électricité s'est faite en deux générations. Et donc, en deux générations, on pouvait s'adapter. Là, on ne peut plus s'adapter, et donc nous sommes bousculés par cette rapidité. Donc, ces deux éléments, le développement, le rôle pris par la machine dans l'intelligence, et non plus seulement dans le geste, et la rapidité avec laquelle tout ceci bouge, sont deux choses qui vont nous faire évoluer. Et le frein dans l'évolution maintenant va être, jusqu'à un certain point, la lenteur de l'homme, de vous, de moi, ou d'une société quelle qu'elle soit, à faire face à ces technologies qui vont trop vite. Et comme on est trop lent, on va de plus en plus confier des tâches d'intelligence créative aux machines, vous voyez qu'on est quand même dans une situation dont nous ne voyons pas très bien quelle est la sortie. Alors, les conséquences sur l'emploi sont évidentes, même si elles ne sont pas toutes aujourd'hui visibles. Ces conséquences, nous avons du mal à les comprendre simplement à cause de cette différence de tempo, de vitesse, entre notre capacité psychologique ou sociale d'adaptation et la vitesse d'évolution des technologies. Dans nombre d'entreprises ou d'ateliers, le contenu du travail n'a guère changé depuis des décennies, mais quand il change, il va changer extrêmement vite, il change extrêmement brutalement. Et l'écart grandit en cette période de mutation entre la start-up, la petite entreprise travaillant dans le numérique, la petite entreprise de logiciels, et la vieille industrie finissante. Alors, là encore, si on reprend ce que nous vivons actuellement avec les 35 heures, c'est là qu'on voit que, tout à coup, quand on parle de l'économie, quand on parle de l'industrie, on ne sait plus de quoi on parle, on a des structures extrêmement différentes. Mais ce qui est important à dire, c'est que le travail demandé aux salariés, du coup, se traduira dorénavant de moins en moins par un face-à-face entre un homme et une machine, ce qui était la base du travail industriel au cours du XXe siècle. L'homme était en face d'une machine et se débrouille avec sa machine. Maintenant, la plupart des emplois qui se créent, il y en a encore dans lesquels on est face à sa machine, mais la plupart des emplois qui se créent sont des emplois qui mettent face à face deux personnes. Même si l'ordinateur ou le téléphone ou tout autre matériel de communication s'interpose entre les deux personnes. N'empêche que les deux personnes sont face à face à un moment donné. Les conséquences sont évidemment considérables. Je vais dire une conséquence tout de suite que je reprendrai tout à l'heure. C'est que la machine, c'était quand on était face à une machine, on pouvait choisir ses horaires de travail. On pouvait dire, la machine travaille de 9h à midi, de 2h à 6h. On met l'homme devant sa machine de 9h à midi, de 2h à 6h. Il y avait un certain rythme qui n'était plus le rythme des agriculteurs ou des ruraux du 18e siècle, mais qui n'est pas non plus le rythme que nous allons avoir maintenant. Parce que la plupart des emplois qui se créent sont des emplois qui sont des face-à-face entre un producteur et un consommateur, un guichet, un service quelconque, la plupart sont de cette nature-là. Et pour que le producteur et le consommateur soient face-à-face, eh bien, il faut pas que leurs heures de travail soient les mêmes. Et on a simplement, c'est une idée tout à fait simple, mais à partir du moment où l'essentiel du travail des gens consiste à être en face du consommateur, il ne faut pas que le travailleur et le consommateur travaillent en même temps. Bon, ça c'est une idée simple qui remet en cause tout le fonctionnement des rythmes de travail. Mais j'y reviendrai à propos tout à l'heure de la durée du travail. Toujours est-il que dans l'industrie et dans les services assimilables à l'industrie, je veux dire les services de masse, les grands ateliers des banques, les grands ateliers des sociétés d'assurance, la sécurité sociale, etc., les effectifs d'ouvriers ou d'employés chargés d'exécuter une tâche répétitive continueront à régresser et régresseront très très loin. Il n'y a aucune raison qu'à la limite, il restera forcément extrêmement peu de tâches répétitives dans l'avenir. En revanche, se créent des emplois en amont de la production, la recherche, le marketing, la fabrication des logiciels, etc., ou en aval, la relation avec la clientèle, qui s'exerce parfois dans les mêmes entreprises et parfois dans d'autres. La productivité apparente du travail de l'ouvrier ou de l'employé de base continue de croître, croise considérablement, et les effectifs correspondants diminuent d'autant. Mais évidemment, il y a d'autres activités qui se créent. Pour ne prendre qu'un exemple, qui me paraît simple, on dit toujours qu'il faut aujourd'hui 10 fois moins de temps pour produire une voiture automobile qu'il n'en fallait il y a 30 ans. Certes, je ne suis pas sûr de mes chiffres. Certes, il faut aujourd'hui beaucoup moins de temps pour produire une voiture qu'il y a 30 ans. Mais on ne compte pas ce faisant tous ceux qui ont été en amont, c'est-à-dire ceux qui ont fait du marketing, de la recherche, ou qui ont élaboré les machines qui permettent de faire ces voitures, qui ont élaboré les logiciels. On ne compte pas non plus tout ce qu'il y a en aval, c'est-à-dire la vente, la location de voitures, etc. Et si l'on met tout ça ensemble, les emplois liés à l'automobile sont à parc équivalent, au moins aussi importants aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 30 ans. Donc c'est un déplacement des types d'emplois, ce n'est pas une réduction du nombre d'emplois. C'est pour ça que j'ai parlé de productivité apparente. Bien entendu, si vous me permettez d'ouvrir une petite parenthèse, vous avez peut-être lu ces jours-ci qu'après que BMW ait décidé d'abandonner Rover à son triste sort et que Ford ait décidé de fermer son usine de Dagenham dans la banlieue de Londres, c'est-à-dire, on se dit là, ils ferment des usines, Ça veut dire donc qu'en fait, la productivité, cette croissance de la productivité détruit des emplois. Le problème, c'est que les emplois dont ont besoin BMW pour fabriquer des rovers et Ford pour fabriquer à Dagenham, ces emplois, ils sont aussi bien aux États-Unis, ils sont aussi bien ailleurs. C'est donc il y a un problème de localisation des emplois, mais il n'y a pas un problème de nombre d'emplois. Le deuxième élément qui change les choses en matière de... Que je mets derrière ce titre du face-à-face homme-machine au tête-à-tête entre deux personnes, c'est évidemment tout ce qui tourne autour de la nouvelle économie. L'une des forces de l'économie américaine, et de certaines économies européennes d'ailleurs, surtout la Scandinavie, est d'avoir su articuler ses activités de production industrielle et les activités de services qui lui sont liées. Lorsqu'on compare les emplois aux États-Unis et dans les pays d'Europe, on constate que les États-Unis ont une grande avance, pas simplement dans les services aux particuliers, on y reviendra, mais dans les services informatiques, de communication, etc., qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les grandes firmes américaines d'informatique qui pratiquement ont fixé toutes les normes mondiales. Ceci est dû au fait que les Américains ont su articuler activités de production industrielle et activités de services. Ce sont, chacun le sait, les grands fabricants d'ordinateurs qui ont permis à de jeunes, ce qu'on n'appelait pas encore des start-up, à de jeunes entreprises de se développer. Et les Bill Gates, etc., sont des gens qui, pour la plupart, étaient des employés de grandes entreprises genre IBM et que IBM a aidé, ou d'autres ont aidé à développer leur activité. Et qui ensuite ont continué à vivre avec eux. Cette capacité de lien entre l'industrie et les services qui a permis à ces activités de haute technologie de se développer. Et donc là encore, même raisonnement que tout à l'heure, ce sont des emplois qui se sont déplacés. Les succès récents des États-Unis proviennent aussi de leur capacité à adapter les résultats de la recherche aux besoins de l'industrie. Et cela, là encore, par la communication, y compris la mobilité des personnes. À ce jeu, et c'est là-dessus que je voudrais insister, à ce jeu de développement de la net économie, j'ai pas envie de dire nouvelle économie, je sais pas ce que ça veut dire, net économie c'est peut-être un petit peu mieux, enfin l'économie liée au développement du numérique, au développement d'Internet, etc. Parmi les travailleurs qui ont aujourd'hui des emplois dans un pays comme le nôtre, les uns seront à coup sûr gagnants et les autres seront à coup sûr perdants. Les gagnants, ce sont ceux que l'économiste américain Robert Reich, qui est un économiste du travail, qui a aussi été ministre du travail de l'actuel président des États-Unis pendant son premier mandat, ceux que l'économiste américain Robert Reich appelle les manipulateurs de symboles, c'est-à-dire les gens dont le métier, c'est de mobiliser des savoirs, de restructurer et de rediffuser l'information, ceux qui savent, par un effort collectif, innover dans les champs de l'économie, de la finance et de la technologie. Ce sont les gens, ces manipulateurs de symboles, je reprends son expression que je trouve assez bonne, qui maîtrisent parfaitement les outils de la communication, qui en accompagnent les progrès, qui utilisent des langages nouveaux, le langage du numérique, les langages de l'informatique, l'anglais de Bill Gates, qui n'hésitent pas à sauter dans un avion pour un oui, pour un non. C'est d'ailleurs à cela que viennent les stock options et les rémunérations élevées. Ceux-là, pas d'inquiétude, ils auront des emplois. S'ils ne les trouvent pas chez nous, ils les trouveront de l'autre côté de l'Atlantique ou du Pacifique. Il n'y a pas de problème. Mais Robert Reich distingue trois autres catégories d'emplois qui, eux, ont plus de soucis à se faire. À l'autre bout, il y a la quatrième catégorie, c'est ce que, en français, j'appellerais les OS. C'est-à-dire ceux, au contraire, qui ne sont pas habitués à de la manipulation de symboles, au langage, à l'informatique, etc. Ceux qui ont eu l'habitude d'avoir des métiers répétitifs. En français, on dirait des OS. C'est tous les métiers qui sont des métiers de répétition. Et ceux-là, il n'y a aucune raison qu'on ait encore besoin d'eux. Parce que la machine va prend la place, et si la machine ne prend pas la place, du fait des différences de niveau de vie dans les différents pays du monde, on peut aussi délocaliser. Donc, de toute façon, ceux-là n'ont pas d'espoir. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sont des évolutions qui se font très très vite, en une génération, on comprend le risque, le danger, la réalité d'un chômage, pas forcément de non-qualifié, mais je dirais de mal-qualifié, qui est un des problèmes fondamentaux de notre société actuelle. Et puis entre les deux, entre les OS et les manipulateurs de symboles, entre les perdants et les gagnants, il y a deux autres catégories qui perdent ou gagnent suivant les décisions des gouvernements. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le politique est très important dans l'emploi. Il y a tous ceux qui sont, je continue la nomenclature de M. Reich, du professeur Reich, tous les services aux personnes, dont je vous montrerai tout à l'heure à quel point ils sont importants dans le développement économique, et tous les services qu'en France on appellerait les services publics, ce n'est pas le mot qu'emploient les Américains, et qui sont donc tout ce qui tourne autour de la santé, de l'éducation, etc. Dans ce domaine de la santé et de l'éducation, ce sont les choix publics, les choix des gouvernements qui décident qu'il y aura ou qu'il n'y aura pas des emplois. La nouvelle économie, donc, c'est-à-dire le développement des nouvelles technologies, conduit à favoriser une catégorie particulière, ce que j'appelle les manipulateurs de symboles, mais que vous retrouverez aussi bien dans la technologie que dans la finance ou le management. Mais cette nouvelle économie, elle a aussi besoin de petites mains. Et ça constitue déjà une nouvelle couche de salariés que moi j'ai envie d'appeler les e-prolétaires, qui sont tous ces gens qu'on entasse, si vous me permettez l'expression, sur des plateaux peuplés d'ordinateurs ou dans des centres d'appels téléphoniques, et qui doivent répondre à longueur de journée, soit par mail, soit par différentes formes, soit par téléphone, dans les call centers, qui doivent répondre rapidement. Alors ces gens-là, il faut qu'ils aient une bonne culture, il faut souvent qu'ils parlent les langues étrangères, il faut qu'ils soient assez débrouillards. Donc ce n'est pas des gens sans qualification. C'est des gens qui ont une certaine qualification, qu'on embauche en général avec un niveau d'études, pour parler de la France, supérieur à Bac plus 2, et qui, au bout de 2-3 ans de ce joyeux travail de répondre au téléphone à des gens pas toujours aimables, ou bien d'être à l'autre bout de l'ordinateur, de la ligne Internet par laquelle vous passez commande dans le e-commerce, eh bien, il faut qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient toujours de bonne humeur. Moi, je pense que c'est e-prolétaire. C'est une catégorie qui va forcément se développer considérablement et qui posera un problème dans l'avenir. Je dirais qu'on en est au e-business pour l'instant. On va bientôt passer du e-business au m-business, c'est-à-dire des affaires par Internet, ce qui commence à devenir d'une grande banalité, aux affaires par les mobiles branchés sur Internet, la nouvelle génération de mobiles, m-business. Et là, ça va faire évoluer les relations commerciales. Et on va avoir toute une série de métiers dont nous n'avons aucune idée aujourd'hui de ce qu'ils seront, parce que même aux États-Unis, ils ne sont pas encore très développés, mais des nouveaux métiers liés à cela. Alors, est-ce qu'il y aura beaucoup de métiers dans l'économie directement lié à la société de l'information, directement lié à tout cela? Oui, mais on ne sait pas combien. J'ai ici quelques chiffres. Est-ce que c'est très lisible? Ce sont des chiffres qui ont été élaborés par la Commission européenne et qui montrent pour l'ensemble de la Commission européenne, la dernière colonne, c'est 1997, qui montre quels sont les nombres de personnes qui sont embauchés, qui travaillent dans les secteurs liés à la nouvelle économie, c'est-à-dire à droite, c'est la production d'objets techniques informatiques. En partant de la droite, ensuite, il y a les services liés à l'informatique, les services audiovisuels, les services des télécoms. C'est la croissance de ces chiffres. Vous voyez, on en est rien que pour la production de nouvelles technologies, on en est à 1,3 million à peu près en 1997. La croissance, je vous montre un deuxième tableau rapidement, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres parce que ce n'est pas le lieu, mais vous voyez que la croissance, c'est la colonne de droite qui indique que la croissance des emplois liés directement aux nouvelles technologies de l'information, elle serait de 8,8% en 1997, après avoir été de 7,9% l'année précédente. Et il semble, je n'ai pas des chiffres malheureusement pour les années suivantes qui soient suffisamment sûrs, mais il semble que la croissance soit encore plus forte aujourd'hui. Si le nombre d'emplois augmente de 10% par an, parce que ça doit être à peu près le chiffre actuel dans les nouvelles technologies, vous voyez que ça va prendre rapidement une place très importante dans notre société. Étant entendu que, bien entendu, à côté de ces emplois directement liés aux nouvelles technologies, il y en a d'autres qui sont induits, et dont je ne parle pas ici, mais il y aura des effets induits considérables de ces nouvelles technologies. Je ne vous donne qu'un exemple. Depuis 2 ans, en Europe, la, les emplois qui augmentent le plus, ce sont les emplois dans la logistique. Du simple fait que lorsque vous passez une commande par Internet, et ça se développe très vite, eh bien, il faut quand même qu'il y a une partie qui est virtuelle, mais vous voulez quand même avoir l'objet que vous avez commandé. On vous promet l'objet dans les 24 heures, mieux que la Renault ou les Trois Suisses, et il faut donc que les chronopostes et autres sociétés de ce genre soient capables d'apporter dans les délais ces éléments. C'est un bon exemple de ce que je disais tout à l'heure. L'informatique va vite, mais nous, on suit derrière péniblement. Et là, ça crée donc un nouveau secteur d'activité qui était peu développé jusqu'ici, qui est celui de la messagerie. Les services aux l'élément suivant dont je voudrais parler, c'est les services aux personnes. Là, j'ai parlé plutôt des services liés aux nouvelles technologies. Je voudrais parler des services aux personnes. Il y a une sorte de paradoxe dans l'évolution de l'économie qui se répercute dans les emplois. Au moment où la toile numérique s'étend sur toute la planète, on ne jure que par Internet, où tout se globalise, les besoins de services aux personnes, les moins techniques, les plus simplement humains, se développent d'une façon extraordinaire, et je vais vous montrer quelques chiffres qui sont impressionnants. Qu'il s'agisse des besoins liés au vieillissement démographique, à l'éducation des enfants, aux services à la famille, puisque le taux d'activité féminin est en train, dans tous les pays d'Europe, de rejoindre, voire dans certains cas, ça semble devoir dépasser le taux d'activité masculin, ce qui est un vrai scandale. Donc il y a des besoins nouveaux liés à l'éducation des enfants et aux services aux familles. Il y a des besoins du fait de l'évolution de l'urbanisme et aussi du fait du chômage, des nombreux problèmes liés aux zones périurbaines, des besoins d'accueil et de sécurité dans les villes. Et puis il y a le développement des loisirs qui est lié à la baisse tendancielle du temps de travail. Et bien tout cela fait une demande de services personnels qui ne cesse de croître. Et la faible productivité de ces activités qui sont mal rémunérées en éloigne pour partie le secteur marchand. Et donc, comme le secteur non marchand, le secteur administratif n'en veut pas non plus, parce qu'on veut baisser la pression fiscale, eh bien, nous allons voir se développer, et c'était la thèse de Jeremy Rifkin dans La fin du travail, il faut quand même que j'en dise du bien, nous allons voir se développer des activités qui sont des activités de service qui ne seront pas productives, rentables, bien rémunérées comme dans le secteur industriel, qui ne seront pas administratives non plus et qui donc vont se développer par ce qu'on peut appeler aujourd'hui le tiers secteur. Et peut-être que l'année 2000, la création d'un secrétariat d'État à l'économie solidaire dans l'année 2000 est peut-être au fond un symbole de cela. Je voudrais simplement rappeler un chiffre intéressant. Lorsqu'on compare les États-Unis à l'Europe des 15, il y a 20% des adultes. Ce que j'appelle un adulte ici, c'est les 15-65 ans. Il y a 20% des adultes qui travaillent dans l'industrie ou l'agriculture aux États-Unis comme en Europe. Les 80% qui restent, ils se partagent en deux parties égales en Europe. 40% travaillent dans les services, 40% n'ont pas de travail. Pas de travail, ça veut dire qu'ils sont soit au chômage, soit simplement ils ont décidé de ne pas travailler, soit en retraite ou en pré-retraite, soit ils font leurs études, hein, on est sur les 15-65 ans. Donc 40% n'ont pas de travail, 40% dans les services. Aux États-Unis, pour cette même catégorie des 15-65 ans, il y en a 26 qui n'ont pas de travail, et non pas 40, et donc la différence, il y en a 54 dans les services. Vous voyez, c'est vraiment, comme les États-Unis ont en général de l'avance sur nous, ce sont des chiffres dont on peut penser que nous allons les rejoindre. Je voudrais vous donner quelques chiffres rapides, ce sera les seuls que je vous donnerai, qui sont des chiffres fournis par la DARES, c'est-à-dire le service des études statistiques du ministère du Travail, c'est 93-98, sur 5 ans, l'évolution des différents métiers. Sur l'ensemble des métiers, la croissance a été de 3,9%. Alors vous allez voir que les métiers de l'agriculture ont baissé considérablement, les métiers du bâtiment et des travaux publics ont baissé considérablement, et les métiers de la production industrielle ont baissé aussi considérablement. Les chiffres sont importants, c'est la France. Hein. Ce qu'on appelle ici les métiers de la production industrielle, ce sont les métiers de production. Ce ne sont pas les emplois de l'industrie, ça ne comprend pas les chercheurs, les administratifs, etc. Ça ne comprend que les gens qui sont sur les chaînes. Voilà, ces chiffres sont des chiffres en baisse considérable. Je vais partir à l'autre bout des familles professionnelles. Vous voyez que les métiers du commerce et de la vente ont augmenté dans la même période de 11%, la formation de 20%, la sécurité et l'entretien de 22%, le tourisme et la restauration de 29%, l'art et les spectacles, les professionnels des arts et spectacles de 34%, ce n'est pas un chiffre très important, mais enfin, le jour du Festival de Cannes, il fallait que je le cite. Les métiers de la santé, plus 38%, les professionnels de l'action sociale, culturelle et sportive, plus 48%, les métiers des services aux personnes qui n'ont pas été comptabilisés au-dessus, plus 53%, et alors la communication, ça ne vous étonnera pas, 65%. Donc vous voyez que cette évolution très forte, alors il n'y a pas tous les métiers, je ne vous ai pas mis les métiers qui sont au milieu, qui ont peu augmenté pour ne pas rallonger trop mon exposé, mais vous voyez que c'est un mouvement qui a eu lieu dans les années 90 et qui se poursuit et qui se poursuivra. Cette évolution, c'est aussi la fin du taylorisme, c'est-à-dire les pyramides aplaties. C'est-à-dire, une des caractéristiques des entreprises du début du XXIe siècle, c'est la disparition, engagée depuis un quart de siècle, des pyramides hiérarchiques qui faisaient des travailleurs de base, du travailleur de base, le simple exécutant d'un agent de maîtrise, lui-même obéissant aux ordres d'un agent de maîtrise, lui-même réduit au rôle de transmetteur des choix d'un cadre, ce dernier étroitement cantonné dans les limites fixées par son supérieur, et ainsi de suite. Ça, c'était le taylorisme. Cette pyramide traditionnelle n'a survécu, rassurez-vous, elle survit encore un petit peu, dans les grandes entreprises publiques et dans les administrations. Elle survit aussi dans les secteurs lourds, pour des raisons souvent liées aux questions de sécurité. Mais maintenant, ça disparaît, et tous les emplois à venir, tous les emplois qui se créent, tous les endroits où il y a des créations nettes d'emplois, le mode de fonctionnement est tout à fait différent, et c'est pour ça que je parle de pyramide aplatie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des échelons successifs. Cela conduit à faire disparaître la spécificité du cadre. Quand on me demande combien il y aura de cadres dans 20 ans, je dirais ou bien il n'y en a plus, ou bien tout le monde est cadre. Faites votre choix. Ça fait disparaître la spécificité du cadre. Le travailleur de base est de moins en moins un exécutant, et de plus en plus quelqu'un qui a la même autonomie qu'un cadre d'autrefois, tandis que ce dernier perd l'autorité qu'il détenait. Ça ne signifie pas, je voudrais souligner ça parce qu'il ne faut pas, quand même pas croire que tout est rose, ça ne signifie pas que la pression qui s'exerce sur le travailleur soit plus faible qu'autrefois, au contraire. En passant de la simple exécution à une relative autonomie des moyens, dans les moyens d'atteindre un objectif qui lui a été assigné et qui peut être parfois trop ambitieux, l'ouvrier ou l'employé ressent plus fortement la pression de l'employeur que s'il se contentait d'obéir à des règles. Et c'est ce qui explique, à mon sens, la multiplication des accusations de harcèlement moral. C'est parce que aujourd'hui, le travailleur de base, l'employé, l'ouvrier, il n'est pas toujours forcément équipé, préparé à cette situation qui est pas une situation de travailleur autonome, et qu'il a la crainte de ne pas réussir à obtenir les objectifs sur lesquels il va être jugé. Et je crois qu'on parle beaucoup de harcèlement moral actuellement, je pense que c'est essentiellement de là que ça vient. Cela dit, les perspectives sont claires dans la nature des relations entre employeurs et salariés. Ce dernier sera de moins en moins un exécutant, qui pourra se satisfaire de réaliser en un temps donné des gestes définis, et son statut se rapprochera de plus en plus de celui du travailleur autonome, recruté, rémunéré et promu, non pas en fonction de grilles, d'automatisme, etc., mais de sa capacité à réaliser des objectifs assignés. Et du coup, privé des protections qu'il a aujourd'hui à travers les conventions collectives, le droit du travail. D'où la nécessité de reprendre le droit du travail. L'autre élément important, c'est le fonctionnement en réseau. Aujourd'hui, l'entreprise elle-même est constamment prise dans des réseaux. L'entreprise d'aujourd'hui, c'est de moins en moins la forteresse entourée de ses murs. C'est de plus en plus des structures qui sont en contrat permanent avec non seulement les clients et les fournisseurs, encore qu'avant, ce n'était souvent pas des contrats, maintenant, c'est des contrats. On a des contrats de sous-traitance, on a des contrats, des accords avec des clients, mais on a aussi des contrats avec l'administration, avec les services publics, avec les salariés, etc. L'entreprise est au milieu d'un réseau. Et à l'intérieur même de l'entreprise, l'entreprise fonctionne en réseau. Plusieurs facteurs contribuent à mettre fin à l'isolement des unités, et notamment, d'ailleurs aujourd'hui, l'ordinateur et les messageries électroniques, qui sont devenus un outil de base pour tous et qui transmettent en continu des informations. Il y a une conséquence considérable sur la nature du travail, même dans les activités de production, sans même parler des activités de guichet, l'employé ou l'ouvrier, comme le cadre, doit passer une part très importante de son temps à communiquer et à sélectionner des informations. Eh bien, il faut le savoir, c'est, presque tout le monde maintenant a pour métier principal, de plus en plus aura pour métier principal de recevoir, de sélectionner, de communiquer, de transformer des informations. Eh bien, je ne pense pas que le système éducatif nous prépare véritablement à cela. Et en ce qui concerne les cadres, cela devient même un peu dramatique. Nous avons fait une étude avec mon équipe sur le temps de travail des cadres dans les différents pays étrangers. Ça, c'était pour rassurer ceux qui se posaient des questions sur le temps de travail des cadres en France. Et bien, ce que nous avons constaté, c'est que le temps de travail des cadres ne cesse d'augmenter à cause de ce que Umberto Eco appelle la laisse électronique, c'est-à-dire le fait qu'ils ont maintenant, avec le portable, l'intranet, l'internet, le téléphone cellulaire, ils sont constamment en liaison avec, d'une façon ou d'une autre, des tas de gens. Même quand ils sont en vacances, ils sont constamment en liaison avec des tas de gens, et donc ils sont au milieu de réseaux, ils passent leur temps à recevoir, à communiquer, etc. Ils ne font que communiquer. Je ne dis pas que c'est mal, je dis que c'est comme ça. La dernière conséquence de ces évolutions, c'est le fait qu'on ne va plus pouvoir parler de qualification, on va être obligé de parler de compétences, quand on commence à le faire. La disparition de cette organisation éclatée en petites cellules, pour un fonctionnement en réseau, se traduit par l'extension de la qualification à la notion de compétence. La qualification, ça s'acquiert par des formations, des stages, ça se valide par des examens, des concours, ça se mesure de façon objective, ça s'inscrit dans des grilles, c'est formidable, c'est simple, c'est clair. La compétence, en revanche, ça ajoute à la qualification des données, des éléments de savoir-faire, de savoir-être, de savoir-communiquer. Et j'entendais l'autre jour, dans un congrès international, des gens dire aussi de savoir où et de savoir qui. Savoir qui. Les gens qui réussiront au fond dans l'avenir, ce sont peut-être ceux qui connaîtront des gens, qui seront dans un réseau, qui savent qui sait faire quoi, puisqu'on a perdu un petit peu les notions simples et claires de pyramide et d'organigramme. Et donc, la compétence, elle est constituée d'un ensemble hétérogène d'habileté. Habileté, c'est un mot anglais, hein. J'emploie le mot anglais. Plus ou moins innés, qui peuvent s'acquérir, mais par des voies hétérodoxes, pas par des stages. Et cette compétence, elle est faite de multiples éléments. Elle se concrétise dans une situation donnée. Bref, on ne pourra pas dire simplement demain, et déjà on ne peut pas dire, j'ai telle qualification parce que j'ai passé tel examen, je sais faire ça, je peux donc être inscrit en QP4-25D dans telle grille, et puis ensuite je vais passer en Q25E, puis en 25F, ça n'existe plus. Ça existe, mais c'est une base. La réalité de ce dont on a besoin dans ce monde en réseau, c'est véritablement des compétences. Et ça, c'est compliqué. Et là, on voit les véritables difficultés que rencontre le dialogue social dans l'entreprise, que rencontre l'élaboration des conventions collectives, que rencontrent les organisations syndicales qui défendaient à juste titre des grilles de qualification, alors qu'aujourd'hui, on passe à un système de compétences. Et c'est vrai que quelqu'un dans une entreprise, si on admet que la vie dans l'entreprise, c'est d'abord des réseaux et des relations de personnes, ces éléments de savoir communiquer, savoir être, savoir faire, savoir qui, ça ne s'écrit pas dans des conventions collectives. Mon dernier point, ça va être donc les relations au temps. Nous vivons dans une période de baisse du temps de travail. 35 heures ou pas, de toute façon, nous travaillons aujourd'hui moitié moins qu'il y a un siècle. Il faut le savoir, et ça va continuer à se réduire. Peut-être pas de façon homogène. Il y a des gens qui vont travailler plus, peut-être. Les manipulateurs de symboles, ils vont vraisemblablement travailler plus et seront payés très cher pour cela. Mais il y a des gens qui vont travailler moins. Aujourd'hui, malgré la toise des 35 heures, on constate qu'il y a des gens qui maintenant, après la loi, travaillent 75 heures pendant que d'autres travaillent 28 heures. Donc je ne dis pas que ça va être égal, mais le mouvement général est bien partout, pas en France, partout un mouvement de baisse du temps de travail. Ce qui est important à dire, c'est qu'on passe du temps collectif au temps individuel. Le monde agricole et rural des siècles passés alignait ses horaires sur la course du soleil et les aléas climatiques. L'industrie du 19e siècle a inventé les horaires fixes sans se soucier ni des saisons ni de la santé. La fin du 20e siècle a remis progressivement ce rythme régulier qui a duré quand même deux siècles en cause, et le 21e siècle verra à tous les coups disparaître cette uniformité pour des raisons que j'ai expliquées tout à l'heure qu'on pourrait reprendre. C'est donc cette individualisation et variation des temps de travail. Je dirais que le passage à des horaires variables d'un individu à l'autre, variable dans le temps, individualisé, répond trop aux besoins des entreprises et répond trop aussi, quoi qu'on dise, aux souhaits des travailleurs pour qu'il soit encore freiné comme il l'est aujourd'hui. Et la véritable question n'est pas est-ce qu'on va dans l'avenir avoir des horaires variables et individuels ? La question est-ce que nous aurons un pacte social, un système de négociation sociale, un système de régulation avec des syndicats et les représentants des salariés et des employeurs pour que cela soit négocié et ne soit pas imposé. On peut en tout cas sans risque émettre un pronostic, les horaires de travail des salariés du 21e siècle seront variables et individualisés. Et puisqu'on en est au temps de travail, il faut parler des autres aspects du temps de travail sur lesquels je n'ai pas le temps de m'étendre et qui sortiraient peut-être un peu de mon objet ici. Mais je voudrais dire qu'il est clair aussi, vous trouverez peut-être cela banal, mais il est clair aussi que la séparation en trois parties de la vie d'un individu devient quelque chose de complètement inefficace dans la société moderne, parce que d'abord on a besoin de se former tout au long de la vie. Tout individu qui commence à travailler aujourd'hui sait qu'il va changer plusieurs fois pour les raisons d'évolution technologique notamment, mais aussi parce que l'économie est plus faite pareil, va changer plusieurs fois dans sa vie, à la fois soit de technique dans son métier, soit de métier dans son entreprise, soit de son entreprise, soit tout à la fois, peut-être en passant par la période de chômage. En tout cas, il va changer. Donc il va falloir mettre en place des systèmes de formation tout au long de la vie. J'entendais l'autre jour, dans le même congrès international dont je parlais tout à l'heure, le directeur du travail du gouvernement hollandais dire « on devrait faire maintenant ce qu'on a pour le temps de travail, tout au long de la formation tout au long de la vie, ce qu'on a fait, suivant les pays, il y a un siècle ou plus, sur l'obligation scolaire, on devrait avoir une obligation de formation tout au long de la vie. » Ça veut dire que la séparation, première partie, je me forme, deuxième partie, je bosse, troisième partie, je suis à la retraite, ne marche plus, ne peut plus fonctionner. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait peut-être que les jeunes puissent commencer plus tôt, mais qu'on puisse se former tout au long de la vie. Et puis, c'est la même chose à l'autre bout de la vie professionnelle. Il est quand même un peu absurde, plutôt de penser que, alors que l'espérance de vie ne cesse de s'accroître, on va continuer à avoir une retraite à 60 ans ou avant et une augmentation avec cette augmentation rapide, cet allongement de la durée de vie. Plutôt que de procéder, j'ai envie de dire, à ceux qui s'occupent des questions de retraite, plutôt que de procéder à de nouveaux calculs toujours aussi décourageants sur les difficultés de financer les retraites lorsque la durée d'inactivité s'accroît tandis que la durée d'activité décroît, problème arithmétique, mesdames, messieurs, absolument insoluble. Ne devrait-on pas s'interroger sur les moyens de retarder l'âge de départ à la retraite, de rémunérer les activités de production des personnes âgées, parce que les personnes âgées ne vont pas toutes à la pêche, il y en a beaucoup qui font des choses, conseils municipaux, associations, etc. Pourquoi est-ce que ce n'est pas rémunéré ? D'organiser dans les entreprises des emplois pour les plus de 50 ou 55 ans, pour les mieux adapter aux besoins et à leurs capacités spécifiques. Entre le travail rémunéré de la personne active qui travaille jusqu'au jour de sa retraite et les activités gratuites des retraités, il y a un no man's land à occuper. Il commence à s'occuper, il commence à se passer des choses, peu chez nous, beaucoup dans les pays scandinaves. Et là-dessus, je pense que si on veut faire de la prospective du travail, et pour que ça intéresse tous ceux qui, comme moi ici, ont déjà des cheveux gris, ou argentés, disons, eh bien, je pense qu'il faudrait aussi s'intéresser à la retraite et pas seulement aux start-up. Les start-up, pour nous, c'est trop tard. Donc nous aurons tous, sachons-le, des vies professionnelles en dents de scie. Alors ça pose, parmi les questions que cela pose, il y en a une qui est très importante, c'est qu'est-ce qu'on fait des chômeurs ? Et tout le débat actuel, qui est un débat qui est pris pour un débat un peu idéologique, un peu difficile en tout cas, sur la manière de gérer l'assistance au chômage, l'assurance chômage, qu'est-ce que doit faire la collectivité pour les chômeurs ? Tout ceci doit être repris dans une perspective non pas d'un chômage de masse lourd, comme nous l'avons connu depuis 30 ans, depuis 20 ans, mais d'un chômage inévitable, touchant certes plus les catégories les moins qualifiées, mais qui peut toucher tout le monde et qui est inévitable dans une société qui bouge sans arrêt. Les théories du workfare ou du welfare to work de M. Blair, je ne dis pas d'ailleurs qu'il les applique, mais enfin, ce qu'il dit est quelque chose qui mérite d'être regardé de près. Il ne suffit pas, en effet, d'assister les chômeurs. L'important, c'est de leur trouver, de comprendre que ces périodes d'inactivité au cours de la vie deviendront quelque chose d'inévitable, et l'important c'est que ça ne dure pas et que donc on puisse à la fois aider et obliger en quelque sorte le chômeur à céder lui-même. C'était difficile de tenir ce discours, c'est encore difficile de tenir ce discours. Ça serait courageux pour un homme politique de tenir ce discours à un moment où il y a autant de chômeurs que nous en avons chez nous, mais on peut espérer que le chômage se réduisant, ce discours reprendra une certaine valeur, et notamment une valeur politique. Je voudrais pour terminer dire simplement que dans l'avenir, les sociétés qui réussiront, les pays qui réussiront, les économies qui réussiront, seront ceux ou celles qui sauront mobiliser les savoirs. Les Anglais parlent de « knowledge-based economy » ou « knowledge-based society ». Les économies qui réussiront, ce n'est pas celles qui ont du charbon, ce n'est pas celles qui ont du pétrole, ce n'est pas celles qui ont quelques petits génies, c'est celles qui sauront mobiliser collectivement les savoirs, y compris pour ceux qui ne savent pas grand-chose, mais qui sont dans des lieux de communication où ils pourront à la fois recevoir et redonner du savoir. L'éducation permanente, la recherche, sont la source de toute richesse. Donc ce sont les sociétés qui sauront à la fois mobiliser les savoirs et préserver la cohésion sociale, en ne laissant pas au bord de la route ceux qui subissent des transitions trop rapides, car nous n'avons pas fini, je l'ai dit en commençant, d'avoir des transitions trop rapides. Lorsqu'on parle aujourd'hui de revoir le droit du travail, de revoir un certain nombre de textes, de faire ce que le patronat appelle la refondation sociale, bref, de réfléchir à tous nos systèmes de régulation sociale, je crois qu'on a raison. Je crois que ce n'est pas par hasard, si c'est en cette année 2000 où il s'est passé tout ce que je viens de dire, que les partenaires sociaux se mettent tout à coup à réfléchir effectivement à cette refondation sociale, c'est-à-dire à se regarder un peu et à se dire « mais ça va pas, faut qu'on change ». C'est en effet, je crois, un nouveau contrat social qu'appelle notre économie et notre société si on veut que ces évolutions sur l'emploi se fassent dans la cohésion sociale. Je vous remercie.
Ne pensez-vous pas que la nouvelle économie dominée par un seul pays, à la longue, donne une seule façon de penser, voire une seule culture, et à long terme, une seule langue?
D'abord, sur la langue, je ne suis pas inquiet. Je suis un bon angliciste. Je vous assure que la langue que parlent les professionnels, l'anglais que parlent les professionnels, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas celui de Shakespeare. Donc, qu'il y ait un vol à puc international qui s'appelle vaguement l'anglais, ce n'est pas très grave. Donc, la langue, ça ne m'inquiète pas. Nous aurons quand même notre langue, même si nous utilisons tous l'anglais dans l'utilisation des outils de communication. Non, je pense que ce qui est vrai, je ne vais pas répondre à toute la question, parce que je trouve que, par exemple, José Bové répondrait mieux que moi et de façon plus convaincante. Mais je voudrais répondre simplement, si vous le permettez, à une partie de la question. Ce qui me paraît, moi, aujourd'hui, un peu angoissant dans les domaines de la nouvelle économie, c'est-à-dire de la technologie nouvelle, c'est le fait que la totalité des normes, des standards, soient fixées, en effet, par un seul pays. Et en réalité, et là, il faut quand même saluer le courage de ce pays, par une seule entreprise dans ce pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez un tableau statistique quelque part ou un tableau comptable, c'est toujours sur Excel, c'est toujours sous Windows, vous êtes sûr que vous avez toujours la même chose. Donc ça, effectivement, le fait que les standards soient fixés par un petit nombre de gens, qu'ils soient d'ailleurs fonctionnaires ou chefs d'entreprise aux États-Unis, ça c'est un vrai problème. Et je crois que c'est dit, je ne suis pas le seul à le dire, mais il est important que du côté de l'Union européenne, on se mette en effet à préciser, éditer des standards. Le pouvoir est où il est, on ne va pas modifier les pouvoirs respectifs, mais les standards, c'est très important. Et moi, je crois, la culture américaine, c'est autre chose. Les standards américains pour tout, c'est dramatique. D'ailleurs, à l'heure actuelle, nous avons aujourd'hui, il y a un bon exemple aujourd'hui, c'est que nous avons un standard de téléphone, le GSM, que nous sommes les seuls à avoir. Vous savez, quand on téléphone sur un GSM aux États-Unis, on n'a personne au bout. Bon, et dans le domaine des mobiles, nous sommes du coup plus en avance et avec des standards proprement européens. Nous sommes en train de perdre cette avance. puisque les prochaines normes téléphoniques seront des normes qui seront traversant l'Atlantique et qui, du coup, comme les Américains sont en avance, sont fixées par les Américains. Donc, moi, c'est sur ce point seulement que je voudrais insister. Je regrette, comme tout le monde, que les pouvoirs sur la planète soient mal répartis, mais ça, je ne peux pas y faire grand-chose. En revanche, il me semble que sur les standards, il y a quelque chose à faire et qui est politiquement possible.
Oui, bonjour, monsieur. Très rapidement, je vais devoir lire ce que j'ai écrit très rapidement. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous ne défendez pas davantage le 35 heures et le mi-temps. Je vais aller plus loin que vous, parce que le mi-temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on travaille à mi-temps, on peut augmenter le taux horaire du travail. Et si on augmente le taux horaire du travail à mi-temps, on arrive à un différentiel qui est peu important avec le travail à 100%. Donc les gens ont plus de temps de vivre. Donc ils ont plus de temps de consommer la culture, etc. Et donc on arrive à une relance de la consommation. Le feu Keynes avait dit que ça aurait impliqué une relance de l'économie en faisant attention aux importations et exportations. Moi, je pense que vous auriez dû investir davantage votre étude sur les moyens d'analyse pour arriver à un mi-temps plus ou moins partagé, ce qui serait très avantageux pour l'économie. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense que on peut toujours faire des simulations économiques. Et c'est possible, on réduit le temps de travail, en effet, ça laisse du temps pour les loisirs, etc. On peut toujours faire ça. Mais il faut comprendre quand même que nous sommes dans un système libéral, heureusement, dans une société libre, et dans laquelle nous n'allons pas obliger tout le monde à ne travailler que 20 heures, par exemple. Il me paraît difficile de contraindre l'ensemble de nos concitoyens à ne travailler que 20 heures. Si on ne les contraint pas à travailler que 20 heures, les gens à qui on offre de travailler 20 heures pour, disons, 10 000 francs par mois, préféreront travailler 40 heures pour 20 000 que de travailler 20 heures et de partir à la campagne. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas dans un système dans lequel on peut imposer. D'ailleurs, heureusement, l'une des difficultés de la loi sur les 35 heures, et on le voit aujourd'hui, c'est que la toise, ça ne marche pas. Dans chacune des entreprises qui ont appliqué la loi sur les 35 heures, il y a eu des adaptations, il y a eu des assouplissements, il y a eu des difficultés. Je crois que tout en fixant des règles relativement strictes en termes de minima, de maxima, de possibilités d'heures supplémentaires, etc., à l'intérieur de ces règles, je crois qu'on est dans un système libéral et qu'il faut laisser chaque homme, chaque femme choisir son temps. La direction dans laquelle on va, me semble-t-il, on va naturellement dans les pays occidentaux, ce n'est pas la standardisation des temps de travail, c'est plutôt, je l'ai dit tout à l'heure, l'individualisation des temps de travail. Pour vous donner un exemple, le gouvernement néerlandais, le Parlement néerlandais, a voté il y a à peu près 2 ans une loi qui dit que les contrats de travail doivent être revus tous les 2 ans pour ce qui concerne le temps de travail. C'est-à-dire que toute personne, tous les 2 ans, doit rencontrer son chef de service, son DRH, je ne sais pas, et revoir avec lui s'il est toujours d'accord sur son temps de travail. Les Hollandais, toujours les mêmes, ont mis en place un système, notamment pour les cadres, qui s'appelle le cafétéria système, lorsque vous entrez dans une entreprise, au lieu, comme c'est le cas en France, qu'on vous dise, voilà, vous avez un contrat de travail tout fait, vous signez en bas à gauche, lui est approuvé. Dedans, il y a écrit qu'on travaille 39 ou 35 heures, qu'on a tel salaire, etc. Ils discutent, et le cafétéria système, c'est une cafétéria, vous choisissez quel système de retraite vous voulez, combien de vacances vous voulez, combien de formation vous voulez, combien de temps de travail vous voulez, et on déduit le salaire. Et donc, je crois que c'est plutôt vers cela qu'on va que vers un système par lequel on dirait tout le monde travaille à mi-temps.
Une question là.
On y a un peu répondu. Moi, je voulais savoir vous parlez du temps de travail qui va être. Un problème, c'est que les gens ne vont plus pouvoir choisir leur temps de travail. C'est tout l'enjeu des négociations. Enfin, on a appris au travail, on a appris apparemment aux Français à s'entraîner à négocier entre patrons et représentants syndicaux par rapport à ce problème. Vous en parlez, vous le dites, en Scandinavie, Vous parlez des cafétérias système pour les cadres, donc pour les
privilégiés. C'est aux Pays-Bas, ça, c'est pas en Scandinavie.
Aux Pays-Bas, ouais.
C'est dans la même direction.
Voilà, bon, vous avez répondu à cette question.
Posez votre question, s'il vous plaît.
C'était ça, en fait. C'était par rapport à... au problème de va-t-on choisir ses horaires de travail ou non, quelles étaient les solutions proposées en Scandinavie? Et on y répond, puisqu'on nous dit en Scandinavie, on remet en cause le temps de travail tous les 2 ans pour tout contrat de travail. Bon. Donc voilà, ma question a trouvé sa réponse. Je vous en remercie.
Eh bien, merci.
Alors, une autre question. Là-bas.
Sauf que, décidément, la Hollande n'est pas en Scandinavie. Mais ça, c'est...
Oui, je suis un peu buté, excusez-moi.
Oui.
Là-bas, une question sur le côté.
Oui. Les nouveaux emplois que vous avez décrits, en particulier dans les services, sont des emplois qui vont nécessiter, de la part de ceux qui vont s'y adonner, de l'idée, de l'initiative, de la créativité. Or, il me semble qu'en France, cette initiative, cette créativité ne peuvent se développer à cause du système juridique de l'emploi. C'est-à-dire que celui-là même qui aurait cette initiative, cette créativité, doit choisir entre le salariat et la création d'une entreprise individuelle. Dans le salariat, il est bridé. Dans l'entreprise individuelle, il est écrasé. Et est-ce qu'il ne faudrait pas chercher des statuts intermédiaires, comme par exemple le portage salarial qui a commencé à se développer en France?
Moi, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que, même si j'ai trouvé vos mots un tout petit peu excessifs, mais je suis assez d'accord avec vous sur le fait que nous avons aujourd'hui un système qui est... finalement, on a un code du travail qui définit très précisément les conditions du salarié et que, hors des conditions du salarié, ce n'est pas clair. Mais comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, de toute façon, ça évolue. Et je crois que nous allons en effet, dans les différents pays occidentaux, certains y sont depuis longtemps, dans des systèmes dans lesquels il y a, on est dans une situation intermédiaire. Vous savez que, pour ne prendre qu'un exemple, au Royaume-Uni, à peu près 15% des travailleurs de l'industrie, le mot industrie étant pris au sens le plus large, ne sont pas des salariés, mais des travailleurs indépendants. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont payés, si ce sont des cols blancs, qui sont payés en honoraires, si ce sont des cols bleus, ils sont payés comme des artisans, et qui sont, je dirais, satellisés autour des entreprises. Alors c'est un truc qui a été utilisé beaucoup du temps de Mme Thatcher pour faire des économies. C'est un système de flexibilité formidable. Puisqu'on prenait les ouvriers de maintenance d'une usine, on leur disait à partir de l'année prochaine ou du mois prochain, vous n'êtes plus salarié, vous êtes artisan. On vous assure un minimum annuel quand même, puis pour le reste, vous vous débrouillez. C'est un système de flexibilité que je crois, en France, on n'acceptera jamais. Ça veut dire que ça existe. Ça veut dire qu'il existe en effet, dans les différents pays européens, peu en France aujourd'hui, il existe toute une série de situations intermédiaires entre la situation du salarié et celle de l'entrepreneur indépendant. Je pense qu'en effet, ça va se développer, et c'est l'une des questions que pose effectivement le développement du droit du travail. En France, malheureusement, chaque fois qu'on a voulu modifier le code du travail, on en a rajouté des pages, on a oublié d'en enlever. Et étant moi-même coupable d'ailleurs de quelques bonnes pages du Code du travail il y a une vingtaine d'années, je n'accuserai pas les successeurs. Mais je me souviens par exemple que M. Giraud, ministre du Travail d'un gouvernement Balladur, je crois, avait dit en arrivant « je vais mettre dans le droit du travail des éléments de flexibilisation ». C'était la loi quinquennale, je ne sais pas si vous en souvenez. Il a en effet ajouté 30 pages au droit du travail pour le flexibiliser, ce qui n'était peut-être pas la meilleure solution. Alors, notre problème, c'est qu'en effet, il va falloir que nous arrivions à sortir d'un mode de modification des textes législatifs et réglementaires qui consiste à en rajouter. Et comme on sait qu'il faut mettre de la flexibilité, il faut quand même en mettre. Chaque fois qu'on rajoute quelque chose, on rajoute en même temps les éléments de flexibilité qu'il faut derrière, et on rajoute des pages. Voilà. Alors, nous sommes un pays dans lequel, chaque fois qu'on s'est posé des problèmes sur l'emploi, sur le travail, sur l'emploi des jeunes, par exemple, au cours des 20 dernières années, au lieu de bien appliquer au mieux et de la façon la plus intelligente possible les textes existants, on a toujours trouvé des ministres et des parlementaires pour réinventer des nouveaux textes. Alors j'ai envie de leur dire, attendez, on se repose un peu, on réfléchit, On essaye de voir s'il peut y avoir, si les différentes choses dont vous parlez, c'est-à-dire ce qui peut être des situations intermédiaires entre le salariat et l'entreprise, ces nouvelles formes, si par hasard elles n'existeraient pas déjà, et à mon avis, en cherchant bien, on les trouverait, et plutôt d'essayer de simplifier le code du travail.
Une question là devant moi.
Oui. Vous avez insisté très lourdement sur le face-à-face qui autrefois était entre l'homme et la machine et qui devient de plus en plus en face-à-face d'homme à homme. Est-ce que vous ne croyez pas que ça va laisser pour compte des gens qui ne pourront pas suivre ? Je pense aux pays du Sud. Je pense aussi aux gens qui ont des activités où la communication n'est pas le fort. Je pense à des activités comme les activités agricoles, certaines activités commerciales, etc.
Un instant sur les activités agricoles, peut-être. Vous avez vu les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. C'est un fait qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Et j'ai envie de dire, j'ai beaucoup d'estime pour les professions agricoles. Vous voyez, la baisse est quand même considérable en peu d'années. J'ai envie de dire que les agriculteurs sont de plus en plus bavards. Je veux dire que promenez-vous dans la France profonde, l'agriculteur qui ne parle qu'à ses vaches et qui est en retard sur tout, etc., ça n'existe plus. Ils regardent la télévision, ils ont un ordinateur, ils ont des tracteurs qui marchent, des tracteurs robots, etc. On n'est pas du tout dans un monde agricole. Donc eux aussi, ils sont partis dans cette direction-là. Les agriculteurs, eux aussi, ils sont partis dans un monde dans lequel on utilise les techniques de la communication, on utilise les techniques de l'information, on n'est plus tout seul avec son cheval et ses poules et sa vache. Donc je crois que même dans les métiers qui sont les métiers les plus classiques, cet aspect communication, relation avec l'extérieur est un aspect qui est important. Moi, je vais vous dire, par rapport à ce que vous dites, ce n'est pas les pays du Sud ou autre chose que je trouve angoissant, c'est le problème des minorités ethniques. Et c'est là, vous ne l'avez pas posé comme ça, mais moi, je le pose comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, dans une société dans laquelle la relation, le travail est de plus en plus une relation entre les personnes, il faut que cette société sache intégrer toutes les minorités ethniques. Et c'est pas toujours facile. Et c'est l'un des problèmes, je crois, essentiels de nos sociétés occidentales. On pouvait toujours entasser, passez-moi l'expression, des travailleurs marocains ou algériens dans les usines de Billancourt. Ça gênait personne. Là, ces mêmes personnes qui sont là, on va leur demander de faire des métiers qui ne sont plus simplement des métiers en face de leur machine. Et c'est pour ces minorités ethniques qu'il faut réfléchir à tous nos systèmes d'intégration qui ont été efficaces mais qui ont leurs limites. En tout cas, on voit bien clairement que dans les choix des entreprises, dans les recrutements des entreprises, dans la mesure où elles recherchent pas seulement une qualification, mais un savoir-faire dans la relation, il y a un handicap clair pour des gens qui appartiennent à des minorités ethniques. Et là-dessus, je crois qu'on a un vrai problème dans ce pays comme dans les autres pays occidentaux.
Une dernière question.
Je crois que vous venez un peu de répondre à ma question parce que il me semble que les qualifications sont toujours nécessaires dans certains métiers. On ne peut pas aller vers des non-qualifications. Mais si on ajoute des compétences de communication à des qualifications, on n'en finit plus de travailler. Est-ce que les 70 heures ne mènent pas aussi à une séparation des compétences de communication avec les qualifications? Un chirurgien ne peut pas passer toujours son temps à communiquer, par exemple, ni un réparateur de voiture, pour prendre deux extrêmes. Et puis ma seconde question très rapide, c'est: est-ce que vous ne croyez pas que les entreprises de services publics devraient se mettre un petit peu à se remuer davantage?
Bon, votre premier point est un petit peu général. Je voudrais simplement dire que la communication, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en plus. C'est simplement que dans la plupart des métiers, on est dans un lieu, on est dans une situation de réception d'informations. Vous avez parlé de réparateur automobile. Avez-vous eu l'occasion, madame, d'aller dans un garage pour aller regarder comment on répare votre automobile aujourd'hui dans un garage moderne? Il y a toute une série de matériel auquel je ne comprends rien. Il y a des ordinateurs, il y a des tas de choses qui clignotent partout. Moi, j'y comprends rien. Mais je peux vous dire qu'un garage moderne, c'est un ordinateur. Alors finalement, il faudra peut-être quand même, à un moment, il y a un gars en bleu qui se passe sous la voiture. Mais pas souvent. La plupart du temps, on change une pièce. La pièce, elle a un numéro. Le numéro, il est donné à la suite par un ordinateur, etc. Alors là, c'est peut-être pas du face-à-face entre deux hommes, mais c'est quand même un métier de communication, jusqu'à une certaine forme. C'est un métier de relation avec un système de communication qui permet de repérer la pièce défaillante, de savoir où commander la pièce, de commander la pièce, etc. Donc je crois vraiment que là... Moi, je me souviens, avec une deux chevaux dans ma jeunesse lointaine, quand la deux chevaux ne marchait pas, je me souviens avoir pris, comme tout le monde d'ailleurs, des bouchons de Coca-Cola pour retenir l'accélérateur, hein, pour retenir, bon, avec du Coca-Cola, avec des capsules de Coca-Cola, on réparait un accélérateur de deux chevaux. Maintenant, c'est plus comme ça, donc on n'est plus tout à fait dans le même système. Alors, quant à ce que le fait que les services publics se bougent, moi je crois qu'ils se bougent, hein, alors je ne sais pas ce que vous avez voulu dire, mais les services publics, ils se bougent. Alors, ils se bougent peut-être pas très vite, quoi, effectivement, pas tous, ça dépend lesquels. Mais bon, c'est lourd. Je pense quand même, quoi qu'il arrive, que ils vont dans le même sens, mais ils vont à leur rythme. Ça dépend lesquels.
Bernard Brune, je vous remercie.